Bonjour Frédéric Bizard.
Bonjour.
Vous êtes professeur d'économie à l'ESCP Business School, président fondateur de l'Institut Santé, auteur du livre Les itinérants de la santé, quel futur pour notre système de santé, pareil aux éditions Michalon. On va répéter que Sanofi négocie avec un fonds d'investissement américain. On parle de plus de 15 milliards d'euros pour reprendre 50% de cette filiale de Sanofi, Opella, qui fabrique donc le Doliprane, mais pas seulement. Une centaine de marques comme le Dulcolax, la Lisopaïne ou encore le Mahalox. Le gouvernement français pense pouvoir garder des sites de production de Doliprane sur le sol français à moyen et long terme. Est-ce qu'il en a vraiment les moyens ?
Généralement, dans ce type d'opération, vous posez des conditions, des clauses, mais qui durent en général 3 à 5 ans. Donc je pense que les salariés de Sanofi ont bien compris ce qui allait se passer. Il y a trois composantes, si vous voulez, dans ce dossier, où on a assisté un petit peu à un épisode de la Commedia dell'arte de la part de la communauté politique, alors que ça fait un an que ce dossier est sur la place publique et qu'on sait que ça sera un fonds d'investissement. On ne savait pas lequel, mais on sait que ce sera un fonds d'investissement.
Et que les syndicats avaient alerté, depuis un an,
c'est ce qu'ils répètent. Et que les syndicats avaient alerté, enfin tout ça, bon. Il y a trois choses. La première, c'est que la société Sanofi, qui est une société française de Big Pharma, qui court après les marchés financiers depuis des années et en fait est devenue une société avec une gestion principalement financière et de moins en moins industrielle, et donc là assure, je dirais, sa pérennité sur les 3-5 ans. C'est-à-dire que là, vous avez une première cession de 50% qui devrait lui rapporter autour de 8 milliards, ce qui va garantir de pouvoir payer des dividendes importants aux actionnaires, donc de conserver un petit peu un capital stable. Et puis vous aurez une deuxième cession des 50% détenus par Sanofi dans 3 à 5 ans. Et donc, il y aura 100% de cette filiale qui est une vraie vache à lait. Et c'est le deuxième point, c'est qu'on peut se demander de la pertinence de la stratégie de Sanofi. Mais c'est un effet de mode dans l'industrie pharmaceutique recommandé par les grands cabinets de conseil qui est céder tout ce qui n'est pas assez rentable pour vous concentrer sur ce qui est rentable.
Oui, là, il cède sa filiale santé du quotidien pour, nous dit-on, se concentrer sur... Les technologies de pointe, voilà. Et les soins de pointe.
GlaxoSmithKline a fait la même chose il y a 2 ans et d'ailleurs a mis sur le marché sa filiale Alléon, qui était la même, santé grand public, à 12 euros et qui, à l'époque, et ça vaut 3 euros maintenant. Mais on peut se demander si Sanofi a vraiment une productivité dans sa recherche et développement, sachant qu'elle n'a pas sorti de produits innovants depuis des années, qui va permettre de garder cette stratégie-là. Et puis, dernier point qui est important et qui est très politique, c'est que cette session est le signe et la continuité, voire l'accélération d'une désertification pharmaceutique que l'on voit depuis des années. Je rappelle que la France, en 2008, était numéro 1 de la production de médicaments en Europe. Nous sommes numéro 6 aujourd'hui et nous sommes à l'arrêt. Nous n'avons plus de croissance de notre production pharmaceutique depuis des années, là où le marché croît de plus de 5%, voire plus de 10% pour certains pays européens.
Oui, malgré ce qu'on nous a dit, le discours très offensif, notamment d'Emmanuel Macron, après le Covid, on va changer, on va relocaliser la production de molécules, notamment de paracétamol. C'est en misère aujourd'hui qu'on en produit. Ça reste un discours aujourd'hui qui n'est pas forcément suivi des faits.
C'est d'abord quand il y a beaucoup besoin d'agitation médiatico-politique, faut toujours se méfier. Quand le président de la République va systématiquement se déplace systématiquement sur les lieux où un investisseur, enfin un laboratoire étranger veut bien investir, je pense que ça devrait poser question. Les investissements ne cessent de baisser. Encore une fois, depuis une dizaine d'années, on était autour d'un milliard, on doit être autour de 500 millions aujourd'hui. Donc ça, c'est quelque chose de connu. Mais vous savez, il faut lier ça à notre politique de santé. Le PLFSS 2025 fait encore du médicament une des variables d'ajustement, avec une baisse d'un milliard d'euros des économies qui sont des baisses de prix. Alors il est normal que certains médicaments baissent de prix, mais on a toujours une gestion comptable à l'aveugle où, malgré des prix qui sont quelquefois bas, quelquefois en deçà du coût de production, mais vous continuez cette régulation purement comptable et non économique de notre politique du médicament. Donc, y compris les laboratoires français ne croient plus tellement à l'avenir de l'industrie pharmaceutique en France.
Alors, on va voir ce que peuvent faire justement aujourd'hui les ministres à la manœuvre et qui se rendent à Lisieux. Vous restez avec nous, Frédéric Bizard. On en parle juste après. Frédéric Bizard, professeur d'économie à l'ESCP Business School, est toujours avec nous. Ce qu'on comprend, Frédéric Bizard, c'est que Bercy voudrait enclencher éventuellement la procédure de contrôle des investissements étrangers qui permettrait éventuellement de bloquer la prise de contrôle d'une entreprise étrangère. Est-ce que ça peut fonctionner, ça, pour garder l'usine Doliprane, la production de Doliprane sur le sol français?
Mon sentiment est qu'on agite cette menace pour essayer de pouvoir imposer quelques clauses contraignantes aux futurs acheteurs, mais il n'y a pas une volonté d'empêcher cette vente-là. Pour cela, il lui fallu, il y a déjà un an, organiser, par exemple, un consortium franco-européen de capital risque, ou même pas de capital risque, d'industriel d'ailleurs, parce qu'on n'aura pas le temps de venir, mais je pense que ça pose un problème, cette ultra-financiarisation par rapport aux objectifs de santé publique. Mmh. Mais au moins, un consortium d'industriels qui reprennent cette filiale. Vous savez, c'est excusez-moi l'expression, mais c'est très bête ce que fait CDR. CDR, c'est un des trois plus gros fonds américains qui a une puissance financière absolument colossale, qui rachète des actifs, non pas avec du capital, mais avec de la dette. D'accord ? Parce qu'un actif comme Opella, c'est une garantie de flux financier très important, de l'ordre de 6 milliards d'euros, avec une rentabilité de l'ordre de 20%. Et donc, vous remboursez pendant 5 ans la dette que vous avez souscrite, et ces fonds n'ont aucun problème pour lever de la dette et à des taux très bas. Et ensuite, une fois qu'ils ont quasiment remboursé leur dette, ils vendent. Et donc, il n'y a aucune créativité, aucune création industrielle. Donc, nous devrions être capables de faire ça avec un business aussi rentable et aussi sûr. Mais pour ça, il ne faut pas le faire une fois que l'affaire est quasiment déjà conclue. Donc, excusez-moi, mais on a quand même un problème d'anticipation des ministères qui est quand même un petit peu inquiétant. Il y a un problème de politique de santé aussi, je l'ai dit.
Oui, il y avait un autre fonds qui se positionnait, c'était un fonds français, PAI Partners, pour reprendre cette filiale. Ça n'aurait rien changé qu'il soit français, en l'occurrence, ou en partie français, s'il avait remporté cette mise.
Alors, vous avez plusieurs points. Le premier, c'est en effet, il y avait un autre concurrent, enfin, qui était d'Abu Dhabi, de Singapour, et avec PAI au début. Donc, ça n'aurait, de mon point de vue, ça n'aurait rien changé. Donc, c'est bien il y a un an. Parce que la question, c'est est-ce qu'on laisse filer des actifs qui remplissent un objectif de santé publique, pas dans un milieu industriel déjà financiarisé, ce qui est le cas des Big Pharma. Mais le Big Pharma, c'est un capitalisme à visage humain. Vous avez quelqu'un en face de vous. À la tête de Sanofi, il y a des hommes et des femmes qu'on identifie, qu'on connaît. À la tête de ces ventures capitalistes, vous n'avez, c'est un capitalisme ultra-libéralisé sans visage. Vous avez des cabinets d'avocats en face de vous. Mais donc, vous n'êtes pas dans le même monde. Donc, je pense qu'encore une fois, les salariés de Sanofi qui vivent des restructurations en pagaille depuis une quinzaine d'années parce qu'il n'y a pas de stratégie industrielle, c'est purement une stratégie financière où on agit par réactivité, si vous voulez, au coup de semonce du marché pour essayer de satisfaire le marché financier, ben, ont parfaitement compris la situation. Il est clair que dans 5 à 10 ans, pour être large, les actifs d'Opella seront probablement plus
vous parliez,
et
oui.
On aura... Et on aura de la pénurie probablement par contre à court terme. Oui. Parce que si vous voulez, la distribution va être redirigée. Il faut bien voir si c'est un moyen pour optimiser la rentabilité. La distribution va être priorisée sur les pays beaucoup plus rentables que la France. Nous sommes un des pays avec les prix les plus bas.
Vous parlez d'un consortium, mais de parler de nationalisation, c'est un gros mot aujourd'hui ou c'est une piste aussi que vous envisageriez, Frédéric Bizard?
Même avec l'état de nos comptes publics, considérer qu'on va dépenser 8 milliards d'argent public pour sauver Opella, je pense que c'est pas réaliste, mais je suis pas sûr que ça soit souhaitable. Le problème, c'est pas d'être dans le secteur privé. Le problème, c'est la régulation de ce secteur privé, d'avoir un contrôle sur ce secteur privé. Vous avez beaucoup d'activités de santé, beaucoup d'activités, je dirais, dans l'eau, dans les autoroutes, qui sont au secteur privé, qui rendent un service public. C'est la France qui a inventé la délégation de services publics au secteur privé. Nous connaissons bien ça, mais tout est une affaire de régulation. Et encore une fois, tout est une affaire de capitalisme à visage humain, ce qu'on a plus là.
Merci à vous pour votre analyse. Frédéric Bizard, dans le fait du jour du 10-12, professeur d'économie à l'ESCP Business School, président fondateur de l'Institut Santé.